RCF.
Vous êtes sur RCF, très bonne soirée le 18-19 en région, ça démarre tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous, 18h10, merci de nous rejoindre sur RCF France Ardennes, RCF Cœur de Champagne. Vous entendez encore la sonnerie de Jean-Pierre Benoît, il est en alerte avec des messages qui arrivent de partout. C'est un homme très occupé, il est en train de s'installer, on le laisse respirer. Bonsoir Jean-Pierre.
Je pense que c'est certainement Sephora ou Burton qui m'annonce qu'il y a une solde de 30%.
Ou peut-être qu'on ira chez Jules, parce que vous le savez, Jean-Pierre, si on cite deux marques, il en faut au moins une troisième à la radio. À nos côtés, Robert Reverger, ce soir, est en place. Vous l'interrogerez d'ici quelques instants. Robert, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Quel est le mot du jour ?
Utopie.
Utopie, eh bien voilà un mot que l'on a hâte de découvrir, ça sera d'ici quelques secondes. C'est un fidèle du mercredi également, Fernand Tavares, journaliste parlementaire, est en studio. Bonsoir Fernand.
Bonsoir.
Quelle est l'actualité du moment ?
L'actualité du moment, d'aujourd'hui, c'est l'affaire, entre guillemets, Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Tout le monde attendait de savoir s'il allait être condamné ou pas par la Haute Cour de justice. C'est tombé. Eh bien, il a été purement et simplement relaxé. Mais, il y a un oui mais, il bénéficie du doute, comme pour tout accusé. C'est-à-dire que le conflit d'intérêts a été retenu en tant que tel, mais ce qui n'a pas été retenu, c'est la conscience du garde des Sceaux par rapport à cette affaire-là. Autrement dit, le garde des Sceaux a fait entendre un certain nombre de témoins qui disent qu'à aucun moment, le ministre de la Justice n'a voulu nuire aux magistrats. Alors ça se discute et on entend droite et gauche et autres discuter ce soir.
Et vous décrypterez tout ça pour les auditeurs de RCF. Ça sera en deuxième partie d'émission où nous serons également avec Jean-Marie Puissant, chef de chœur Nicolas de Grigny et de l'ensemble Allegri. Vous l'avez compris, on parlera musique. Un maire qui vous parle, une maire ce soir, c'est Katia Beaujard, maire d'Hermonville, qui sera avec nous aux alentours de 18h20. On salue également nos stagiaires à la rédaction qui sont là. On va commencer par les jeunes filles, notamment la jeune fille qui est avec nous, Manon Bréval. Bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis.
On vous retrouvera pour la météo de demain, notamment sera à l'intérieur du journal régional. Et puis Kylian Janot est là, lui aussi. Bonjour Kylian.
Bonsoir Alexis.
Vous étiez en immersion hier à un atelier senior concernant la sécurité routière. Vous nous présenterez tout cela dans le journal régional.
Bien sûr.
C'est avec joie. 18h13, Jean-Pierre, je vous laisse la parole.
Et on retrouve bien sûr, comme tous les mercredis, Robert Reverger qui est avec nous. Rebonsoir Robert.
Hein. Rebonsoir Jean-Pierre.
Vous avez dit bonsoir déjà, mais enfin bon, on le redit une deuxième fois. Et le mot que vous allez évoquer, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le mot utopie. Vous nous l'aviez annoncé la semaine dernière, un mot que l'on entend assez souvent. Avant que vous nous racontiez ses origines et son évolution, dites-nous donc quel est le sens actuel de ce mot, l'utopie.
En résumé, et cela depuis le 19e siècle, une utopie c'est un idéal, c'est une vue politique qui ne tient pas compte de la réalité. Alors à ce propos, Romain Rolland, qui est un grand écrivain, comme vous le savez, disait « Les utopies, il disait pour les Français, paix universelle, fraternité, progrès pacifique, droit de l'homme, égalité naturelle ».
Alors, parmi ces synonymes, à la place d'utopie, on pourrait utiliser chimère, illusion...
Mirage, rêverie...
Alors, à quelle époque ce mot est-il apparu ?
Eh bien, en 1516, un grand humaniste et penseur anglais, Thomas More, publie un livre en latin titré « De l'île d'utopie » ou « Traité sur la meilleure forme de gouvernement ».
Alors, ça serait bien de savoir où est cette île, où Thomas More cite-t-il cette île ?
Eh bien, cette île, elle est nulle part. D'où son nom, qui est à la racine grecque, ou, qui signifie non, et topos, le lieu, c'est-à-dire utopie, c'est l'île de nulle part.
Alors justement, on la cherche, hein, cette utopie. Alors qui était d'ailleurs, rappelez-nous un petit peu, parce que j'avoue qu'on a un peu oublié, qui était Thomas More ?
Eh bien, c'était un homme de loi et de gouvernement. Après des études de droit, il devient avocat et sous-shérif de la ville de Londres, tout en étant membre de la Chambre des communes. En 1509, le jeune roi d'Angleterre, Henri VIII, l'appelle à son service et en fait rapidement son homme de confiance avant de l'emprisonner et de le faire exécuter.
Oh là, il n'y va pas par quatre chemins. Alors pour quelle raison ?
Ben parce qu'il avait désapprouvé le divorce du roi.
Alors passons. Et donc, lorsque Thomas More parle de la meilleure forme de gouvernement, il sait quoi, de quoi précisément il parle.
Oui, en effet, cette connaissance précise de la politique, de la diplomatie, mais également de l'économie et des questions relatives à l'organisation sociale du royaume d'Angleterre, donne aux critiques de Thomas More vis-à-vis des gouvernements une acuité, disons, sévère.
Alors, son œuvre n'est donc pas, comme on pourrait le penser, une évasion vers l'île de nulle part, vers un idéal qu'on ne peut atteindre, mais bien une réflexion politique, une réflexion de fond.
Oui, et en même temps, cet idéal nous fixe un horizon vers lequel l'humanité regarde encore avec l'espoir de nous apporter des progrès et d'améliorer le sort de tout un chacun. Cette utopie est donc avant tout une réflexion sur les fondements éthiques et politiques en vue d'une société plus juste et plus heureuse.
Alors, quels sont à ses yeux les fondements d'une telle société ?
Mais il en préconise trois principaux, l'éducation du peuple, l'entraide et la tolérance religieuse.
Alors son œuvre, l'œuvre de Thomas More, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est un pamphlet humaniste ?
Exactement, je crois qu'on peut le dire. Son œuvre d'ailleurs, qui eut un grand succès en Europe, est un pamphlet, on peut dire, virulent, qui dresse le constat d'un royaume d'Angleterre rongé par l'orgueil des puissants et la misère du peuple, et qui recherche la meilleure forme de gouvernement pour combattre cette situation.
Alors cet humaniste du début du XVIe siècle s'est-il inspiré de grands anciens, en particulier de l'Antiquité ?
Oui, les sources de l'utopie sont très diverses et très nombreuses.
Alors quelles sont-elles ces sources de l'utopie ?
Eh bien, Thomas More s'inspire par exemple des œuvres des grands humanistes de l'Antiquité grecque ou latine dont nous avons parlé, mais il y a de ça un certain temps.
Alors, il faut nous rafraîchir un petit peu la mémoire, par exemple, Robert ?
Eh bien, pour ne citer que les principales, il s'inspire de la République de Platon, de l'histoire naturelle de Pline, la politique d'Aristote, et puis les œuvres du poète comique grec Aristophane, du philosophe Épicure ou du 5e siècle de notre ère, de Saint-Augustin.
A-t-il eu des liens avec des personnalités importantes de son époque ?
Bien sûr, il a participé à cette société des intellectuels humanistes européens qui échangeaient leurs réflexions et leurs découvertes, ces humanistes dont nous avons aussi parlé.
Alors on peut quand même les rappeler. Quels sont ces humanistes, ces grands humanistes ?
Ben, Thomas More admire Pic de la Mirandole. Il est un ami de Marcille Ficin, mais aussi et surtout d'Erasme. Il faut aussi noter que le personnage principal de son récit, qu'il appelle Raphaël Itlaudé, dit avoir découvert l'île d'Utopie au cours de l'un des voyages d'Amerigo Vespucci, dont More est un lecteur d'ailleurs.
Alors, c'est une question un peu finale, avant de vous retrouver bien sûr la semaine prochaine, mais peut-on penser qu'aujourd'hui l'utopie inspire les hommes politiques dont on parle et dont on va parler avec Fernand Tavares dans quelques temps? L'utopie inspire-t-il nos hommes politiques du monde entier?
Je crois que Fernand Tavares serait aussi bien placé, sinon mieux que moi, pour répondre. Mais disons qu'on ne peut pas nier que l'utopie a toujours été et est toujours présente dans la plupart des programmes et des promesses politiques. Hélas, ces intentions, qui ne manquent pas de générosité, bien sûr, se cassent presque toujours le nez face aux réalités des lieux et du temps. Alors cela dit, quitte à être souvent déçu, peut-on ne pas rêver d'un monde sinon parfait au moins meilleur ? Comme le disait Oscar Wilde, une carte du monde sur laquelle ne figure pas le pays d'utopie ne mérite pas le moindre coup d'œil.
Merci Robert Auverger de votre chronique. La semaine prochaine, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, nous parlerons d'affaires.
Eh bien, d'affaires, oui. Au singulier et au pluriel ?
Voilà, bien sûr.
Merci Robert Auverger, bonne semaine, à la semaine prochaine.
Merci.
Le 18-19 sur RCF.
Justement, avant de retrouver la suite des programmes avec vous, Alexis, Fernand, c'est pas qu'on veuille remuer le couteau dans la plaie. L'utopie, on a parlé des hommes politiques, affaires au singulier ou au pluriel, il y en a beaucoup dans le monde politique. Vous en parlez régulièrement.
Il suffit de se pencher sur les dernières élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, voire municipales ou départementales. Quand on est candidat, eh bien, on fait un certain nombre de promesses. On dit je résous le problème de sécurité, il y aura plus de chômage avec moi, vous gagnerez bien votre vie, les femmes n'auront plus de problème, voilà. Et puis, résultat des courses des années après,
ça,
on entend poser des questions. C'est de l'utopie parce que face aux réalités, on s'en rend compte toutes les semaines, les choses sont un petit peu différentes.
Et ça, c'est le programme de cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est les affaires. Ça aussi, Fernand, les affaires en politique, il y en a quand même pas mal.
Il y en a pas mal, mais les juges ont de quoi faire. Mais malheureusement, le poids du pouvoir, le poids des influences, le poids des autorités avec un A majuscule, que ce soit au niveau national ou au niveau local, ça reste très important.
Merci Fernand, on vous retrouve dans une poignée de minutes. La suite des programmes dans un instant.
Non, Jean-Pierre, la suite des programmes, c'est ici que ça se passe.
C'est tout de suite.
La virgule, elle a déjà eu lieu, Jean-Pierre.
Elle a déjà eu lieu, la virgule. Ah, ben, on ne sent plus.
Alors, expliquer donc, un petit peu la technique à nos auditeurs.
Après la virgule, il y a les petits points. Alors, les petits points, c'est vous.
C'est ça. Mais les petits points, c'est aussi vous, Jean-Pierre. Là, je passe juste vous annoncer. Je suis le serveur qui passe les plats, en quelque sorte, ce soir.
Et quel plat!
Puisque nous avons un maire qui nous parle ce soir, ou plutôt une maire, devrais-je dire. Katia Beaujard, d'Hermonville, est avec vous.
Katia Beaujard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que quand on est à Reims, et même beaucoup d'Ardennais connaissent Hermonville, ce sont des superbes villages à quelques kilomètres de Reims, et on va aller à la découverte de votre commune. Madame Beaujard, pouvez-vous nous présenter un peu votre commune, le nombre d'habitants, voilà, est-ce que ça évolue ce nombre d'habitants ?
On a un nombre d'habitants qui est aujourd'hui à 1425 habitants, on est plutôt stable. Moi, je suis élue depuis 2008 et maire depuis 2013, mais je fais fonction depuis 2011. Et depuis ces dates-là, on a une population qui, globalement, reste stable. Donc, voilà.
Alors, on va y revenir, Katia Beaujard, on va y revenir, parce que cette population, je vous interromps un petit peu, mais est-ce que ce sont des retraités, est-ce que ce sont des gens qui arrivent, des jeunes qui s'installent à la périphérie de Reims, dans de beaux villages, enfin de villages. Quand on dit village, mais 1500 habitants, ça commence à devenir un bourg, hein.
Oui, c'est un bourg, effectivement. On a une population qui est mixte, en fait. Hein. On a à peu près la moitié des habitants qui ont entre 25 et 59 ans. On a un petit 25% de 60 ans et plus. Et puis, on a environ une 20-28% de 0 à 24 ans, globalement. Voilà.
Alors, évidemment, vous avez été motivé pour être maire en étant au conseil municipal. C'est ça, vous avez fait tout un processus.
En fait, ça a commencé. J'ai fait le recensement dans la commune quand je venais à peine d'arriver. J'ai fait le recensement et puis j'ai trouvé le contact avec les habitants sympas. On était une année avant les élections et puis le maire cherchait... des élus pour participer, donc j'ai dit bah ouais, pourquoi pas, donc ça s'est passé comme ça, voilà. Et j'ai été adjointe pendant 3 ans, et après j'ai fait fonction de maire pendant 2 ans, et puis après j'ai été élue maire.
Ça s'est passé en quelque sorte tout naturellement. Et alors vous êtes, on imagine, souvent sollicité, parce que il y a beaucoup de maires qui se plaignent en disant, surtout quand on a des activités professionnelles, c'est quand même du travail d'être maire, Katia Beaujard.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, non, c'est un boulot. Oui, c'est au moins un mi-temps, voire à un certain moment, c'est un temps plein, quoi. Ouais.
Et donc, on comprend pourquoi il y en a certains qui ne veulent pas se représenter parfois. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a un autre phénomène, c'est le phénomène des intercommunalités, des communautés de communes. Pour votre commune, c'est le Grand Reims. Mais tout de même, le maire dans une commune, on l'entend dire à chaque fois, c'est un personnage, c'est une personnalité. Le maire, ça compte encore, je veux dire, même s'il y a une communauté de communes ou un Grand Reims.
De toute façon, le problème quotidien des gens, ils vont pas les toquer à la porte du Grand Reims, ils viennent toquer auprès du maire. Je veux dire, dans un village, les gens se tournent vers leur commune, de plus en plus d'ailleurs, de plus en plus. Puis au secrétariat de mairie, on a des appels pour tout et pour rien. Je veux dire, les gens prennent facilement leur téléphone pour appeler la mairie, pour des conseils, pour des renseignements divers. Donc oui, le maire est là quotidiennement. Au plus proche de ses administrés, bien évidemment.
Mais c'est peut-être aussi, Katia Beaujard, un signe, c'est que finalement, le maire, c'est peut-être la seule personne qui peuvent interpeller, qui peuvent voir facilement, parce que sinon, ils ne savent plus à qui s'adresser, ou s'adresser à des répondeurs, à des plateformes, Moodle, et puis j'en passe, et des meilleurs.
Non, mais c'est sûr que le contact humain est important, bien évidemment, et effectivement. Alors, c'est d'autant plus vrai dans des petites communes, je veux dire, voilà, on est accessible. Dans une commune telle que la nôtre, 1450 habitants, un peu moins, voilà, le maire, on le côtoie quand il va chercher son pain. D'ailleurs, il faut éviter le dimanche matin d'aller chercher son pain.
Sinon là vous risquez d'être interpellé un petit moment. Hein, les gens vous demandent, ils en profitent, ils vous en foutent la main.
Bien sûr, mais c'est tout l'intérêt aussi. C'est tout l'intérêt également.
Bien sûr, de votre mission. Alors, avez-vous des projets qui sont en cours, des projets à court terme ou à plus long terme qui sont déjà bien démarrés?
Alors, on a déjà réalisé un certain nombre de projets ou sur le point de les finaliser. Et pour la deuxième partie de mandat, on est sur un projet d'une médiathèque avec une salle annexe. Donc, le projet est en cours. Il y a un certain nombre de conditions, notamment financières, pour voir si on pourrait aller au bout du projet. Mais en tous les cas, on est sur ce gros projet-là. Bon, puis après, il y a plein d'autres petits projets autour, mais le projet majeur, c'est celui-ci.
Et ça va prendre plusieurs mois quand même, ça, plusieurs années peut-être, c'est quand même quelque chose de conséquent.
Oui, dans une petite commune, vous savez, on n'a pas des services qui font le travail d'ingénierie, de technicien, etc. Donc c'est les élus qui font quand même globalement tout. Donc entre un gros projet d'une ampleur telle que celui-ci, pour une commune telle que la nôtre, ça nécessite, entre le moment où on y pense et le moment où on le sort de terre, à minima 4 ans.
4 ans de travaux, oui, c'est quand même important. Ouais. Alors, mère et vie professionnelle, mère et vie familiale, comment vit-on ces réalités ?
Alors moi, mère et vie professionnelle, j'ai fait le choix de ne plus avoir de vie professionnelle, puisque je suis mère, mais je suis aussi vice-présidente au Grand Reims. Donc du coup, ça me prend un temps plein, voire plus qu'un temps plein. En général, je suis plus à 40-50 heures par semaine que moins. Donc c'est pour moi pas compatible. Et puis vie de famille, j'ai la chance d'avoir mes enfants qui sont grands, donc j'ai plus de liberté de ce côté-là et j'ai un mari très conciliant, donc voilà.
Simplement à titre indicatif, même si c'est pas dans l'émission, votre mère nous parle, quels sont les dossiers dont vous vous êtes chargé comme vice-présidente du Grand Reims aujourd'hui ?
Alors moi je suis en charge de tout ce qui est scolaire et petite enfance sur le Grand Reims.
Ah ça c'est pas un petit dossier non plus, on comprend qu'il y a quand même beaucoup de travail.
C'est du travail au quotidien en fait, oui, c'est du travail au quotidien. On traite sur toutes les communes qui ont transféré la compétence scolaire et petite enfance au Grand Reims, donc c'est vrai que ça concerne 128 communes, donc c'est un gros travail, oui c'est un gros travail.
Avez-vous un souvenir ou une anecdote sur une situation que vous avez eu à vivre en tant que maire ? Ça aussi c'est une question qu'on pose de temps en temps, mais... Peut-être qu'il n'y en a pas, parce que les gens sont contents, vous interpellent, il y en a qui sont moins contents, parce qu'il y a tout dans une commune.
Ouais, globalement, moi, je j'ai pas à me plaindre. J'ai des administrés qui sont sympas, qui sont respectueux aussi de quand je suis à titre privé, c'est-à-dire qu'on n'est jamais en répit quand on est dans sa commune. Voilà, on est toujours sur le qui-vive, quand on balade, on voit toujours ce qui aurait amélioré, ce qui ne va pas, les dangers. Pour autant, moi, j'ai des administrés super sympas, qui respectent vraiment ma vie privée. Il y a eu effectivement une anecdote, puisqu'on a eu une grave pollution de l'eau à Hermonville, donc là, ça a été des jours très denses. Donc ça, c'est le souvenir le plus marquant que j'aurai dans la commune, puisque je crois que j'ai très peu dormi pendant 3 ou 4 jours. Je pense beaucoup à mes confrères dans le sud ou dans le nord avec les inondations, avec les catastrophes. Je les plains parce que on dort pas. Hein. On dort pas et remarquez, ça fait partie de la fonction.
On comprend pour terminer, Katia Beaujard, que vous êtes une mère passionnée, mère d'Hermonville. Dernière question qu'on pose dans toutes les émissions. Êtes-vous une mère heureuse ? Mère, bien sûr, M-A-I-R-E.
Écoutez... Heureuse, fatiguée, heureuse aussi, mais fatiguée.
Vous êtes passionnée, alors la passion, ça atténue la fatigue.
Oui, mais quand même, on en a de plus en plus à faire. On n'en voit pas le bout et ça commence à devenir usant.
En tout cas, merci Katia Beaujard d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes maire d'Hermonville et qu'à l'occasion, au cours de cette année, on pourra sans doute encore parler de votre belle commune à quelques kilomètres de Reims.
Merci, au revoir Jean-Pierre.
Merci Jean-Pierre, merci Katia Beaujard, maire d'Hermonville. Jean-Pierre, on le sait, c'est le rendez-vous presque tous les soirs. C'est d'ailleurs tous les soirs, c'est pas presque tous les soirs. Quoique, on verra qu'il y a des exceptions. Par exemple, demain soir, émission spéciale depuis Châlons en Champagne. Là, c'est... Pour une fois, il n'y aura pas de maire avec vous à
18h20. Oui, une émission spéciale, et on le dit en particulier à nos auditeurs du diocèse de Châlons-en-Champagne, avec Monseigneur François Touvet, qui a été nommé tout récemment par le pape François comme évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon.
Et puis, des maires qui vous parlent, c'est tous les jours sur RCF France-Ardennes, c'est un petit peu l'instant promo à midi.
Tous les jours à midi, alors.
Les prochains rendez-vous cette semaine.
Alors, les prochains rendez-vous cette semaine, ça sera Lucie Paulet de Balieu-les-Fimes. Lundi prochain, Francis Blain, le maire de Trigny. Puis Bernard Portier, le maire de Grandchamp, dans le département des Ardennes. Mais si je regarde ma montre, Alexis, je dois quand même accélérer un petit peu, parce qu'il est pratiquement 18h30 et l'heure de retrouver le journal régional avec nos amis stagiaires et avec Fernand Tavares qu'on retrouve tout de suite après. Mais tout de suite, Alexis Claudretz.
Vous avez dit nos amis stagiaires et Fernand Tavares. J'ai cru que vous alliez faire une surprise et que c'est Fernand qui allait présenter le journal sur RCF.
J'aurais pu, hein.
C'est à essayer prochainement, Fernand. On le fera. Aujourd'hui, on vous propose les titres de ce mercredi 29 novembre 2023. La ville de Reims et l'association Prévention routière de la Marne ont sensibilisé les seniors aux dangers de la route hier. Immersion. Le Champagne Basket a perdu sa demi-finale aller de Leaders Cup face à Lille. 5 points de retard seulement avant le match retour mardi prochain dans le Nord. Réaction du coach Marnet.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Et on part dans les Ardennes après Lémazure et Sècheval en début de semaine. Des flocons de neige sont de nouveau tombés sur les Ardennes au petit matin. À Sedan et Charleville-Mézières, cette fois, pas de quoi bloquer le trafic. La fine pellicule blanche a rapidement fondu face à ces basses températures et un ressenti pouvant parfois atteindre jusqu'à moins 10 degrés. Le département est placé en vigilance jaune. Le plan grand froid a même été activé par la préfecture des Ardennes, un dispositif où les services de l'État sont mobilisés pour offrir des hébergements aux personnes les plus vulnérables. Les tendances météo de ce jeudi sont à retrouver en fin de journal avec notre stagiaire Manon Bréval. Hier, la ville de Reims a organisé un atelier de prévention routière pour le dispositif 65 ans et plus. Kylian Janot, notre stagiaire, lui aussi, était sur place. Bonsoir Kylian.
Bonsoir Alexis.
Alors racontez-nous cette journée en immersion hier, c'était du côté de la maison de la vie associative rue du Barbâtre, pas très loin de nos studios.
En effet, 40 seniors ont pris part à cet atelier tout au long de la journée à la maison de la vie associative de Reims. Ayoub, l'un des participants de cet atelier, nous précise ce qu'il attendait de cette journée.
J'ai choisi de faire cet atelier pour des raisons un petit peu multiples. Bon, d'abord, les modalités de mobilité ont beaucoup changé. Il y a des panneaux qui sont nouveaux. Et puis prendre conscience que plus on avance dans l'âge, plus on n'a pas les mêmes réflexes.
C'était important pour vous de suivre cette formation aujourd'hui ?
Oui, je pense que c'est important. C'est un petit plus, bien que je ne suis pas un utilisateur permanent de véhicules. Mais je pense que lorsque ça se présente, c'est déjà mieux d'être un petit peu mieux prévenu.
À la fin de cette formation, vous serez plus rassuré en prenant le volant ?
Ah oui, ça va permettre un petit peu de faire plus attention à certaines choses et surtout, par exemple, au niveau des panneaux nouveaux qui se sont ajoutés, d'être un petit peu plus prudent.
Est-ce que vous recommanderez cet atelier à d'autres personnes ?
Oui, moi je trouve que c'est quelque chose de très important et je dirais même pour les moins seniors. C'est pas quelque chose qui est utile et uniquement pour les personnes de cet âge. Je le conseillerais à beaucoup de personnes.
Denis, bénévole à la sécurité routière, nous explique pourquoi il est important aujourd'hui que les seniors soient formés.
Il y a déjà une demande des seniors qui veulent avoir une remise à niveau concernant les connaissances du code de la route, de la réglementation et pour justement conduire en confiance et en sécurité.
Ce type d'atelier ne sert pas juste à sensibiliser les seniors au moment de conduire leur voiture.
Non, bien sûr, c'est une remise en confiance pour qu'ils conduisent en sécurité, mais on aborde aussi le côté piéton parce qu'avant tout un senior c'est un piéton et on les sensibilise au fait qu'ils sont vulnérables quand ils se déplacent en ville pour éviter d'avoir un accident.
Comment fonctionne ce type d'atelier ?
On fait beaucoup de vidéos parce qu'avec la vidéo, c'est ce qui passe le mieux. Et puis, bien sûr, après, c'est des cas pratiques d'accidents. Et on reprend différents thèmes comme la vitesse, la ceinture de sécurité, la fatigue au volant. Tous des thèmes qui concernent les seniors.
Ces ateliers sont reproduits régulièrement à Reims et dans les alentours ?
Oui, sur toute la Marne, c'est reproduit en fonction des demandes des associations. Là, cette semaine, je vais aller faire un atelier à Famille Rurale à Isle-sur-Suippes, donc auprès des seniors du secteur.
La ville de Reims soutient ses ateliers de prévention. Kim Jones, adjointe au maire, déléguée aux liens intergénérationnels, aux seniors, aux familles et à la petite enfance.
Certains d'ailleurs ne sortent plus, donc c'est aussi un moyen de lutter contre l'isolement des seniors qui restent chez eux juste parce que ils ont peur de reprendre leur voiture ou ils ont peur même d'être à pied en ville. Donc c'est vraiment une demande et un besoin. On voit souvent les victimes d'accidents urbains dans les grosses villes sont souvent soit des enfants, soit des seniors.
Vous pouvez retrouver toutes les actions du dispositif 65 ans et plus sur le site internet de la ville de Reims, www.reims.fr.
Merci Kylian, on vous retrouvera très prochainement à l'antenne avec d'autres actualités. La flamme académique, et j'ai bien dit flamme académique Jean-Pierre, pas la flamme olympique, est arrivée dans la Marne aujourd'hui dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, réalisés par des enseignants et des élèves en bac pro, chaudronnerie et construction mécanique du lycée Gustave Eiffel de Reims. Elle a commencer son trajet à travers l'Académie le 27 septembre à Charleville-Mézières. Elle va désormais circuler pendant 2 mois dans la Marne avant de rejoindre la Haute-Marne le 31 janvier, puis l'Aube le 3 avril. Un match à la vie, à la mort ce soir pour les Flammes Carolo, selon les mots de l'entraîneur carolo-massérien Romuald Hierno. 6e et dernier match de poule pour les Ardennaises dans Eurocoupe féminine, qui sont dans l'obligation de battre les Tchèques de Brno à la Guinguette Arena pour se qualifier pour la suite de la compétition. Coup d'envoi à 20h. Et du basket, il y en avait dès hier soir en région. En demi-finale aller de la Leaders Cup Pro B, le Champagne Basket a perdu la première manche face à Lille. Christopher était sur place.
Malgré une bonne première période avec 14 points d'avance, les Marnais ont laissé filer le match face à des Lillois revanchards en seconde période. Score final 73 à 78 en faveur de Lille. Un manque de rythme et d'adresse pour le coach marnais Thomas Andrieux.
On savait que cette équipe de Lille allait avoir une forte réaction sur la deuxième mi-temps. Ils ont monté le curseur dans l'intensité. Puis après, c'est un sport d'adresse, donc on peut expliquer tout ce qu'on veut. Quand vous shootez à 61% première mi-temps et 23% en deuxième avec un 7 sur 31, c'est difficile de s'imposer. C'est notre attaque et notre stérilité à ce niveau-là fait qu'on a eu du mal à contrôler après derrière le jeu de relance et le jeu de transition et ils se sont mis en rythme. On a joué nous par contre après de façon arrêtée, on a manqué de gaz je trouve sur la deuxième mi-temps et le rythme s'est inversé par rapport à la première mi-temps.
Seulement 5 points de retard pour les Marnais, tout est encore possible en attendant le match retour mardi prochain chez les Nordistes. Retour en championnat vendredi face à Rouen.
On aimerait bien en championnat après avoir glané ce succès en terre antiboise vendredi dernier, enchaîner puis offrir aussi à nos supporters, à notre public un succès à l'aréna, mais l'équipe de Rouen est une équipe aussi très ambitieuse et voilà, on l'a joué 2 fois en Leaders Cup, ils sont venus s'imposer sur un dernier match sans enjeu ici même. La difficulté c'est qu'on est sur un effectif assez court, donc sur les matchs joués 3 jours c'est un petit peu délicat. Rouen n'aura pas joué ce soir et eux s'appuient sur un effectif assez large, donc ça sera une donnée évidemment importante, donc s'attacher à bien récupérer avant de se projeter sur ce rendez-vous.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. La rencontre face à Rouen se tiendra vendredi, c'est le 1er décembre, donc à la Reims Arena. Coup d'envoi à 20h30. Il reste des places, n'hésitez pas à aller encourager l'Alliance Champenoise. 18h38, la météo de ce jeudi, c'est avec Manon, toujours là dans les starting blocks. Encore un peu la paillette d'ailleurs aujourd'hui. Bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis.
Alors à quoi faut-il s'attendre pour ce jeudi dans le ciel ?
Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Pour la matinée de demain, un temps assez similaire en Champagne-Ardenne. De gros nuages épais sont prévus. Quant aux Bragards et aux Troyens, eux devront sortir les parapluies. Vos thermomètres descendront au minimum à 1 degré et au maximum à 5 degrés du matin jusqu'au soir. Pour l'après-midi, le temps sera le même partout, de la pluie, encore de la pluie et toujours de la pluie sur votre joli territoire.
On espérait de meilleures nouvelles, on vous laisse continuer.
Une brise légère vous accompagnera tout au long de cette journée pluvieuse. Demain, nous mettrons à l'honneur nos tendres André. Gros bisous à mon ami qui nous écoute depuis Chalon. Bonne soirée.
Allez, on en profite pour les dédicaces. Merci Manon, on se joint à vous pour souhaiter une bonne fête à tous les André. Très bonne soirée. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF avec notamment Jean-Marie Puissant, chef de chœur Nicolas Grigny. Ce sera dans quelques minutes. Mais avant cela, Fernand Tavares décrypte l'actualité avec Jean-Pierre Benoît.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
On retrouve donc tout de suite Fernand Tavares, journaliste parlementaire. Inutile de le présenter, il est avec nous tous les mercredis. Et justement, l'actualité, on savait que c'est un événement qui allait tomber aujourd'hui. C'est qu'allait-il se passer à propos du ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Monsieur Dupond-Moretti. Alors, qu'en est-il ?
Alors il faut dire que depuis 24 heures, et j'allais presque dire depuis hier après-midi à l'Assemblée nationale, on était un petit peu circonspect. Pourquoi ? Parce que le garde des Sceaux est intervenu répondant à une députée du Rassemblement national d'une façon très très virulente, alors que ça ne s'y prêtait pas. Il s'est mis à condamner l'extrême droite, à condamner le Rassemblement national, à les traiter de néo-nazis, etc. Ce qui fait que certains ont pensé que c'était un petit peu le champ du départ. On s'est dit, mais pourquoi dans l'hémicycle, le garde des Sceaux parle-t-il ainsi alors qu'il n'avait pas forcément à le faire? C'est peut-être qu'il se sent menacé par le jugement de la Haute Cour de justice, qui est tombé il y a quelques heures. Il doit pousser ce soir à ouf de soulagement, puisque le garde des Sceaux a été purement et simplement relaxé.
Relaxer, ça veut dire qu'au fond, les critiques qui étaient formulées, enfin ce qu'on lui reprochait, eh bien finalement ça tombe à l'eau.
Mais écoutez, les magistrats de la Haute Cour, qui sont composés, comme vous le savez, de magistrats professionnels, mais également de députés et de sénateurs, je ne peux pas dire qu'ils ont coupé la poire en deux, mais un petit peu quand même quelque part. Dans cette affaire, qu'était-il reproché au garde des Sceaux? Une sorte de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'il aurait profité d'être précisément ministre de la Justice pour régler ses comptes avec certains magistrats à qui il avait eu affaire lorsqu'il était avocat. Donc, ce qui a été retenu quand même, c'est que le conflit d'intérêts existe dans cette affaire, mais que le garde des Sceaux n'avait pas connaissance de cette affaire en tant que ministre de la Justice et qu'en aucun cas il n'avait agi au détriment des magistrats.
Est-ce qu'on peut dire, Fernand, que le doute a prévalu ?
Le doute, évidemment, comme pour tout un chacun, a prévalu, entre guillemets, à l'accusé. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde est satisfait, mais néanmoins, le syndicat de la magistrature reconnaît dans cette affaire qu'il n'avait pas tout à fait tort, puisque le conflit d'intérêts en tant que tel a été reconnu. Ce qui n'est pas reconnu, c'est la culpabilité du ministre de la Justice, qui aujourd'hui conserve son poste de garde des Sceaux, à toute la confiance de la Première ministre et du président de la République. Alors, maintenant, il y a des questions qui se posent. Est-ce que, comme pour tout un chacun, cette décision est susceptible d'appel ? La réponse est non, puisqu'il s'agit de la Haute Cour de justice. En matière de Haute Cour de justice, lorsque le jugement est prononcé, il n'y a pas d'appel. Néanmoins, le procureur de la République, l'avocat général, peut saisir une cour supérieure, qui est donc simplement la cour de cassation, s'il le souhaite. Donc, il a quelques jours pour se prononcer. Si le procureur estime que dans cette affaire, il faut saisir la cour de cassation, comme pour tout un chacun, parce qu'il a de forts doutes, à ce moment-là, on remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire que, à nouveau, le garde des Sceaux devra comparaître devant une haute cour de justice, pas la même. Pas la même, ça sera toujours la Haute Cour de justice, composée cette fois de députés et de sénateurs, certes, mais des nouveaux députés et des nouveaux sénateurs. On n'en est pas encore là. Est-ce que les choses vont s'apaiser? On le verra dans quelques jours.
En tout cas, c'est une affaire à suivre, comme on dit, dans l'actualité aussi aujourd'hui, et ça touche bien entendu le réseau RCF d'une certaine façon. C'est la disparition, on l'a appris il y a quelques jours, de Gérard Collomb, maire de Lyon pendant près de 20 ans, et qui avait marqué la vie municipale à Lyon. Mais aussi la vie politique française, puisqu'il avait été ministre de l'Intérieur.
Effectivement. Et cet après-midi, on lui a rendu hommage debout au Sénat, parce que c'est un ancien sénateur qui a marqué la haute cour, pendant la haute juridiction, pendant de nombreuses années. Il était très apprécié parce qu'il avait l'expérience d'un homme
mais,
de terrain.
Simplement, on aime bien votre témoignage.
Oui.
Vous l'avez bien connu, Gérard Collomb.
Je l'ai connu en tant que journaliste parlementaire. C'était un homme très disponible par rapport à la presse. Moi, je me souviens que la dernière fois que je l'ai interviewé, c'était en tant que ministre de l'Intérieur. Il venait présenter un certain nombre de choses. Il s'était exprimé plusieurs fois et nous, on était en direct une demi-heure après. Donc, je lui ai fait passer un mot et, à ma grande surprise, alors qu'il était dans l'hémicycle, il est ressorti de l'hémicycle, il est venu aux quatre colonnes pour s'exprimer au micro de la chaîne parlementaire. C'est un homme très simple, très distingué. Il avait quand même un certain humour, mais en même temps, il était, comment dirais-je, très tracassé, très meurtri par tout ce qui se passait, tant au niveau politique qu'au niveau des attentats, au niveau de l'injustice qui régnait envers les uns et les autres, envers les gens qui étaient violents. Il agissait fortement. C'était un homme sur le terrain et à la tâche, comme tous les ministres de l'Intérieur, jour et nuit. C'était un petit peu lourd pour lui, peut-être trop lourd pour lui, puisque vous voyez, on l'a vu encore aujourd'hui, il a traîné quand même un certain nombre de problèmes de santé très graves, et il devait en souffrir.
Mais on se souvient de son départ sur le perron de Matignon, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avec Édouard Philippe à ses côtés, où il disait, on était côte à côte, puis peut-être qu'un jour on sera face à face, mais on ne va pas mettre d'huile sur le feu, bien entendu. Mais il avait quand même, il était parti avec une certaine rancœur. Mais
une certaine rancœur, oui.
Le président de la République, tu as rendu hommage, car il faut rappeler que dans la vie publique française, Gérard Collomb a été l'un des plus grands et des plus fervents soutiens du président Emmanuel Macron.
Ah, c'était le soutien de la première heure. Et d'ailleurs, on se souvient très bien de cette réception à l'Élysée où il était carrément en larmes lorsque le président de la République l'a remercié.
élu en 2017. Alors on revient sur une actualité qui est pas marrante, hein, il faut le dire, et on en parle tous les jours, tout le temps, c'est les violences, c'est toujours ces débats qu'on ressort sur l'extrême droite, les ultra-droites et tout le bazar. On en a parlé à l'Assemblée, bien entendu, au Sénat.
On en a parlé à l'Assemblée et au Sénat, j'allais dire un peu comme chaque semaine, et le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a été encore une fois sur le grill. Pour dire quoi ? Pour dire que, évidemment, après la mort notamment du petit Thomas, et après un certain nombre de réactions d'ultra, de formation d'ultra-droite ou d'extrême-droite ou d'extrême-gauche masquées, ça rappelle des heures terribles. Tout le monde condamne cela. Tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche politique au sein des hémicycles. Alors Gérald Darmanin dit qu'il faut absolument arriver à dissoudre toutes ces associations, à les condamner. Et on a fait remarquer cet après-midi, en particulier au Sénat, la chose suivante, c'est que dans ces milices, il y avait des majeurs, mais il y avait aussi des mineurs, des enfants de 16 ans, de 17 ans, de 14 ans. Et la question a été posée de la façon suivante. Et finalement, c'est une réflexion qui va avoir lieu. Vous savez que pour être condamné, il faut être majeur. Or, les parlementaires, les sénateurs en particulier, ont interrogé le gouvernement pour réfléchir à l'abaissement de l'âge de la majorité pénale. Autrement dit, de 16 ans à 14 ans. C'est ce qu'il voudrait. Donc, et l'excuse de minorité, la même chose. Donc je parle de la majorité pénale, pardon, de 18 à 16 ans. Et l'excuse de minorité de 16 ans abaissée à 14 ans. Parce que ils estiment que les jeunes, aujourd'hui, ont affaire à un certain nombre de forces, entre guillemets, qui soient maléfiques, qui se laissent entraîner et qui n'ont plus aucune retenue. On l'a vu dans les violences. Il y a quelques mois, en cassant les vitrines, en pillant les magasins, et on le voit aujourd'hui en prononçant quand même des mots particulièrement difficiles, appelant parfois peut-être à la mort ou à la suppression des immigrés, par exemple, entre autres.
Alors, le sujet, avant de revenir à l'actualité locale, c'est encore Israël qui a retenu l'attention, avec, au bout du chemin, peut-être un processus avec deux États. On en a parlé à l'Assemblée,
On n'arrête pas d'en parler. On en a parlé hier, on en a parlé encore aujourd'hui.
On a parlé des enfants qui avaient été libérés également.
On sent que, quelque part, tout le monde voudrait être un petit peu diplomatisant. Il faudrait quand même que ça continue, que la paix, entre guillemets, apparente, au moins pour libérer les otages, se poursuive encore pendant quelques jours. Et puis patatras, il y a des enfants qui ont été effectivement libérés. L'un d'entre eux a expliqué aux uns et aux autres, alors qu'il avait que 12 ans, que ces geôliers du Hamas l'ont obligé à regarder ce qui s'était passé le 7 octobre. Imaginez un enfant de 12 ans qui voit massacrer des enfants, des femmes enceintes, qui voit violer des femmes enceintes à cet âge-là. Donc l'enfant vient de raconter cela. Ça donne encore une autre réflexion. Et du côté israélien, évidemment, même si on essaye de faire en sorte qu'un maximum d'otages soient libérés, c'est quand même des grosses épines dans le pied que les uns et les autres ne peuvent que condamner. Néanmoins, la partie diplomatique, la France, maintient sa position en disant « Bon, il faut porter secours à ceux qui sont blessés, à ceux qui ont besoin de soutien, à ceux qui ont des problèmes de santé. On a des
libérer les otages au maximum.
Libérer les otages, soigner, laisser les hôpitaux ouverts. Ça, c'est vrai. Mais il se pose quand même d'autres problèmes aujourd'hui. Est-ce qu'on va aller aussi un jour ou l'autre, il faut quand même être optimiste, vers deux États, comme le réclame la France? Ça, on n'en est pas encore là.
On aura l'occasion d'aborder d'autres sujets, Fernand. On vous remercie, là encore. On aura peut-être plus encore de temps la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Et puis bon, vous suivez toujours ça de très près.
Oui, c'est les réactions à chaud. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de nouvelles optimistes.
Merci Fernand. Dans un instant, la suite de nos programmes. Il est 18h49. Mais auparavant, je vais donner peut-être, si vous le permettez, Alexis, en 30 secondes, des nouvelles de nos différents évêques du diocèse.
Non, mais je vous le permets, Jean-Pierre. Vous êtes ici chez vous. C'est votre antenne.
C'est pas la mienne. C'est celle des auditeurs d'RCF. C'est la vôtre. C'est celle de Fernand. d'expérience et de nos stagiaires.
La joie se partage, la joie se partage.
Alors, simplement, donc, on rappelle Monseigneur Touvet en émission spéciale et puis deux nouvelles de nos évêques. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort se trouve en ce moment à Malte où il représente, bien sûr, les évêques français puisque c'est la rencontre des présidents des conférences épiscopales d'Europe jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à jeudi, à Malte. Quant à Monseigneur Véteux, il est actuellement à Rome où il participe aux travaux de la commission théologique internationale dont ils font partie. 50 théologiens dans le monde. Monseigneur Véteux en fait partie. Et nous serons en direct de Rome avec lui. Ce sera vendredi matin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité, j'allais dire interdiocésaine, avec nos évêques, Alexis.
Le 18-19 sur RCF.
Et après ces plages d'actualité, Jean-Pierre, on vous retrouve pour un autre genre d'actualité, cette fois pour parler musique avec votre invité qui nous rejoint.
Jean-Marie Puissant, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors, deux concerts à l'affiche. Il y en a un d'ailleurs qui est pratiquement, on peut le dire, complet. On va en parler tout de même. C'est demain, le 30 novembre. C'est au Conservatoire à 20h. Et puis un autre dont on parlera peut-être plus longuement, c'est le samedi 9 décembre au Cirque, dans le cadre des Flâneries musicales, un concert de Noël. Alors d'abord, Jean-Marie Puissant, ce concert de demain, c'est un concert Mozart qui a lieu au Conservatoire. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit du Requiem de Mozart. Alors on va peut-être nous dire, ah, encore un Requiem, puis c'est une œuvre qui est tellement jouée, bien sûr, dans le monde entier. Mais là, j'ai choisi de faire une version qui a été réalisée par un compositeur qui s'appelle Alessandrini, et qui a fait en fait, ce qu'on faisait au 19e siècle, quand on voulait faire entendre la musique et qu'on n'avait pas les moyens de se payer un orchestre ou d'écouter la radio, qui n'existait pas, bien sûr, et ben on faisait une réduction des œuvres orchestrales et au piano, et ça permettait aux mélomanes d'entendre, d'avoir une idée de l'œuvre composée par Beethoven, Mozart ou d'autres. Et donc là, cette version est réalisée pour deux pianos, deux grands pianos de concert et des timbales qui jouent la réduction complète de l'orchestre. Donc on entend vraiment le Requiem de Mozart avec le chœur, avec les solistes, et avec l'orchestre, qui est donc remplacé par deux grands pianos et des timbales.
Ça, c'est pour demain, le 30 novembre, bien sûr. C'est au Conservatoire, c'est à 20h. Bon, on va le dire, il est pratiquement complet, hein, ce concert.
Le concert est complet. Il y aura le chœur Nicolas Grigny. Les solistes, c'est l'ensemble de solistes Allegri.
Donc que vous dirigez également.
Bien sûr. Mais voilà, toutes les places sont vendues. Donc,
bon, nos auditrices et auditeurs, bon, si on leur dit que c'est complet, ça va quand même moins les intéresser pour s'y rendre. Tandis que le 9 décembre, c'est un samedi et on peut prendre, bien sûr, date quelques jours à l'avance. Il va y avoir un concert de Noël, c'est au Cirque, c'est à 20h30, c'est un samedi. De quoi s'agit-il exactement ? Vous n'êtes pas tout seul avec le chœur Nicolas de Grigny.
Non, alors c'est un grand concert que nous a invité à faire les Flâneries musicales de Reims. Et donc, ils m'ont demandé de faire un concert de Noël et j'aime bien, comme vous le savez, découvrir des répertoires et surtout faire découvrir au public de nouvelles œuvres. Donc j'ai fait le choix de prendre trois compositeurs de nationalités différentes, Mendelssohn, Honegger, compositeur français, et puis Rimsky-Korsakov, compositeur russe, bien sûr. Et donc on a là trois œuvres très différentes. Mendelssohn, une œuvre complètement sacrée, bien sûr, dans un style qu'on connaît, qu'on a tous mélomanes, mémoire en fait, dans le style, si vous voulez, de la musique, qui n'est pas surprenante, puisque c'est quelque chose une musique assez connue, dont le style est assez connu en tout cas. Et puis Rimsky-Korsakov, qui est la nuit de Noël, qui est en fait une scène qui se passe dans un village ukrainien au moment de Noël, avec ses joies, ses peurs, ses sorcières, et donc c'est une musique plutôt théâtrale. Et je terminerai le concert avec cette cantate qui est peu donnée, cette cantate de Noël de Arthur Honegger, avec une musique assez élaborée, assez étonnante, dans laquelle il reprend d'ailleurs les Noëls traditionnels, il est né le divin enfant, etc. Mais tout ça dans une écriture tout à fait assez recherchée, avec des couleurs, des, des timbres, et pour lequel il y aura d'ailleurs la maîtrise de Reims qui participera.
Ah mais alors justement, je vous interromps Jean-Marie Puissant, il y a bien sûr le chœur Nicolas de Grigny que vous dirigez, l'ensemble Allegri aussi que vous dirigez, mais il y a aussi d'autres chœurs que vous connaissez bien d'ailleurs, hein, parce que ce sont des proches aussi, hein, je pense au chœur Variation.
Ben bien sûr, c'est-à-dire que comme le cirque est une salle vraiment assez grande, que j'aime beaucoup, on donne des concerts chaque année au cirque, hein. C'est une salle de 1000 places, dont l'acoustique est vraiment assez exceptionnelle, on voit très très bien de partout, et avec l'orchestre d'une cinquantaine de musiciens, je voulais faire un équilibre avec le chœur. Donc le chœur Nicolas Grigny, composé de 80 chanteurs, je l'ai complété avec le chœur Variatio, qui est le chœur de chambre que je dirige en Seine-et-Marne, mon lieu de résidence. Donc le chœur Variatio viendra compléter le chœur Nicolas Grigny, et il y aura aussi un chœur régional, un chœur qui est plus connu en Champagne, qui est le chœur Axonance, qui est dirigé par Stéphane Canda, qui est un de mes assistants et un des chanteurs de l'ensemble Allegri. Donc l'ensemble Axonance, le chœur Axonance viendra compléter. Donc il y a trois chœurs, plus le chœur d'enfant de la maîtrise pour chanter la dernière œuvre du concert, la cantate de Noël de Honegger.
Alors justement, dans cette cantate de Honegger, vous l'avez dit, que je ne connais pas, hein, je peux vous dire mon ignorance, Jean-Marie Puissant, je suis un peu béotien face à vous. Dans cette cantate de Honegger, il y a, vous l'avez rappelé, quand même des chants, entre guillemets, hein, de Noël que l'on connaît et qu'on pourrait, je veux dire, presque fredonner à la limite.
Exactement, oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est une œuvre assez originale parce que elle commence avec un caractère très très sombre, presque chaotique. On croirait le début de la création du monde dans certaines autres œuvres, vous voyez, quelque chose d'assez sombre et qui petit à petit qui s'éclaire, va vers la lumière jusqu'à célébrer la naissance du Christ et on entend là tous ces chants traditionnels français et allemands d'ailleurs, puisque Arthur Honegger était suisse-allemand, et on entend tous ces chants qui se superposent comme une grande fête, comme une sorte de carillon, comme si on entendait des gens chanter sur la place du village à différents endroits. C'est vraiment une musique très très intéressante, très très bien faite.
Et puis il y a un orchestre aussi.
Avec une orchestration tout à fait originale. Bon, Arthur Honegger fait partie des grands compositeurs français, et l'orchestre, c'est un orchestre avec lequel j'ai eu la chance de faire la deuxième symphonie de Mahler au mois de mars dernier à Paris. C'est l'orchestre Les Ondes Plurielles, donc un très bon orchestre que j'ai eu le plaisir de faire travailler la semaine dernière.
Eh bien, Jean-Marie Puissant, qu'est-ce que vous voulez? Quand on a un programme comme celui-là, on ne peut être qu'émerveillé. Et puis, on peut se dire d'aller sur le site des Flâneries Musicales pour réserver, parce que là, il y a encore des places. Hein.
Il y a encore des places. Et en plus, c'est un concert qui est dont une partie des bénéfices sera reversée à deux associations. Donc, en plus, on fait une bonne action. En même temps, on participe un peu à la vie de la société en aidant les certaines associations caritatives.
Merci en tout cas Jean-Marie Puissant d'avoir été avec nous aujourd'hui, et puis très bon concert demain au Conservatoire, et puis le samedi 9 décembre au Cirque avec ses Noëls originaux. Merci Jean-Marie Puissant.
Merci Jean-Pierre Benoît, à très bientôt, au revoir.
Merci Jean-Marie Puissant, merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous. Vous êtes encore là pour cette dernière minute à passer ensemble. L'occasion de rappeler que demain, 18h10, vous serez avec nous, avec les équipes de RCF Cœur de Champagne, évidemment, Christopher Fausten, Jawed Saoudik, Gérald Gaillet et puis tous les bénévoles, comme de RCF Reims-Ardennes d'ailleurs, où c'est l'occasion de saluer nos équipes. Vous serez depuis les studios de RCF Cœur de Champagne avec Monseigneur François Touvet pour sa dernière émission.
C'est la dernière émission de Monseigneur François Touvet dans le cadre du 18-19 régional. Monseigneur François Touvet qui a été nommé évêque coadjuteur de Fréjus Toulon. C'est la dernière émission sur notre antenne à nous. Il va faire plein d'émissions sur RCF dans le Var.
Il aura plus chaud là-bas.
Il aura, oui.
Le rendez-vous, c'est de 18h10 à 19h demain, jeudi, évidemment, avec Monseigneur François Touvet. Fernand Tavares, on vous remercie et puis on vous dit certainement la semaine prochaine ou dans les prochains jours, quoi qu'il arrive.
Il y aura toujours d'actualité, vous inquiétez pas.
Effectivement, merci d'avoir passé cette soirée avec nous. On remercie également nos stagiaires. Kylian, à très bientôt, à demain.
À demain.
Et Manon, on vous dit à demain également. Vous serez aussi présente à Châlons-en-Champagne.
À demain.
Jean-Pierre, bonne soirée.
Eh ben
demain,
oui. Merci Alexis, merci Fabrice, à Fabrice qui est à la mise en onde et merci à toutes nos équipes. Dans quelques secondes, on retrouve le journal national de RCF.